RBA FM vous propose la seconde partie de l'émission de Gérard Marty, Mémoire et patrimoine, consacrée au travail de recherche sur les soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Travail effectué par le professeur d'histoire Gilles Vidal. Gilles Vidal est l'invité de Gérard Marty.
Bonjour à vous tous. Alors nous sommes dans l'émission Mémoire et patrimoine. Elle est consacrée aujourd'hui et depuis la semaine dernière à la Première Guerre mondiale. Nous recevons Gilles Vidal pour nous en parler. Gilles Vidal est professeur d'histoire au lycée de Mauriac. La semaine dernière, nous avons abordé avec lui à grands traits la Première Guerre mondiale sous un angle un peu historique. Nous lui avons aussi bien sûr posé la question de savoir ce qu'il avait amené à entreprendre ce travail de recherche. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre dimension. Gilles Vidal est allé sur le terrain et il est allé à la recherche des traces qu'avait laissées ce conflit. C'est ce que nous appelons le patrimoine matériel et mémoriel. Que reste-t-il de visible sur les lieux du conflit de la Première Guerre mondiale ? Gilles Vidal.
Alors, les traces sont multiples, aujourd'hui encore, puisque c'est un conflit qui a marqué une ligne de front qui s'est allée sur 800 km quand même. Alors je parle du front français, on va laisser de côté les autres fronts. Les traces sont multiples encore aujourd'hui. Je ne me voyais pas faire ce travail sans me rendre sur les lieux. Aussi, j'ai organisé avec mes élèves du lycée il y a quelques années, à l'occasion de deux voyages différents, des excursions sur l'ancien front pour leur faire vérifier quelle avait été l'ampleur en fait du conflit. Les traces, elles sont partout en fait. On a commencé par le front de Verdun, bien sûr, parce que c'est le plus connu. Si vous êtes au nord de Verdun, vous êtes dans une forêt d'épicéa aujourd'hui, mais sous cette forêt d'épicéa, les tranchées, les trous, les tirs d'artillerie marquent partout. Donc les traces sont multiples. D'ailleurs, c'est devenu un patrimoine matériel dès la fin de la Première Guerre mondiale. Parce que dès les années 20, s'est mis en place, il faut le dire, un tourisme mémoriel, souvent organisé par les familles au départ, et ensuite exploité par des entreprises qui en ont fait un commerce. Donc ce patrimoine mémoriel a été entretenu, a été mis en valeur. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Vaux, le fort de Vaux, le fort de Douaumont, la tranchée des Baïonnettes, c'est des hauts lieux qui sont devenus vraiment des éléments du patrimoine de la Première Guerre.
Par exemple, de la grande bataille du Chemin des Dames, qui a fait plus de 20 000 morts, c'est un chiffre considérable. Par exemple, la guerre d'Algérie a fait un nombre de morts à peine supérieur à une simple bataille, celle du Chemin des Dames. Que reste-t-il comme trace d'un tel événement, d'un tel moment ?
Alors, sur le Chemin des Dames, les traces sont aussi très nombreuses et elles ont été mises en valeur. Il y a un endroit qui est célébrissime, c'est le plateau de Californie, au-dessus du village de Craon. C'est là qu'est née la fameuse chanson « Contestataire » de Craon.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Et sur le plateau de Californie aujourd'hui, vous pouvez monter sur un promontoire qui est aménagé par la municipalité, je pense, et qui permet de dominer toute la ligne de front du Chemin des Dames, cette bataille qui a commencé le 16 avril 1917 et qui, en une semaine à peine, a décimé à peu près, comme vous le disiez tout à l'heure, une vingtaine de milliers de soldats français, au point d'entraîner des mutineries sans précédent au cours de l'année 17.
Oui, vous nous avez montré des photos lors de la conférence qui permettent de visualiser des traces de trous d'obus, de restes de tranchées. D'ailleurs, nous les mettrons, ces images-là, sur la page Facebook de notre radio, comme ça les gens pourront se rendre compte de ce que c'est réellement aujourd'hui, ces traces mémorielles. Vous nous avez montré des carrières souterraines qui sont aujourd'hui encore en l'état quasiment. Qu'est-ce que ça représente ? De quoi s'agit-il en fait ?
Alors ces carrières, elles se trouvent surtout sur le front de l'Aisne entre Soissons et Reims. Et ce sont des carrières qui existaient bien avant la Première Guerre mondiale, qui étaient exploitées depuis le Moyen-Âge pour la pierre et ensuite pour stocker de la nourriture. Et pendant la Première Guerre mondiale, donc le front après la fameuse bataille de la Marne s'est figé donc un petit peu au nord du fleuve de l'Aisne, et c'est à cet endroit que se trouvent, sous le plateau calcaire, des carrières qu'on appelle des creutes, et qui ont été de part et d'autre utilisée par à la fois les Français et les Allemands pour cacher leurs troupes et les mettre à l'abri des tirs d'artillerie. Parce que c'est des carrières qui ont des plafonds qui font plusieurs mètres d'épaisseur et qui doivent permettre de se protéger des obus les plus puissants.
Oui, dans les images que vous avez montrées, il y a des sculptures, il y a des gravures, il y a des traces finalement qu'ont laissées les différents occupants au cours du temps.
Oui, bien sûr, justement, ça permet de revenir un petit peu sur l'occupation des soldats. Les offensives sont finalement assez peu nombreuses pour un soldat. Et le reste du temps, il faut s'occuper à l'arrière, au cantonnement. Et quand on veut tuer le temps, on peut fabriquer des objets avec des obus, on peut sculpter dans la roche des éléments symboliques. Bref, il y a tout un art dit de tranchée qui va naître et qui permettra aux soldats de tenir, en plus des lettres quotidiennes qu'ils écrivaient pour beaucoup d'entre eux à leur famille.
Oui, les offensives sont des moments où on demande aux soldats de sortir de la tranchée. Et c'est là qu'il y a beaucoup de morts, quoi, j'imagine. Enfin, comment se passent les batailles elles-mêmes? Comment s'affrontent les soldats des deux camps?
Alors, une grande offensive, c'est très codifié. C'est préparé d'abord. C'est de plus en plus préparé au fur et à mesure que la guerre se prolonge. En général, une offensive est toujours précédée par ce qu'on appelle une préparation d'artillerie. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours et nuits, on va pilonner le front adverse en espérant que la première ligne soit complètement anéantie avant de partir à l'assaut. Quand l'assaut est lancé à leur hache, eh bien, c'est un ou plusieurs régiments, voire plusieurs armées qui sont lancées sur un front. Par exemple, le 16 avril 1917, c'est des centaines de milliers d'hommes qui sortent à leur hache ensemble à l'assaut de la première ligne adverse.
Des centaines de milliers?
Ah oui, oui, des centaines de milliers, oui. Et les officiers vont tout faire pour que les soldats sortent au coup de sifflet, en se donnant même le droit, au début de la guerre en tout cas, de tirer sur les réfractaires. Donc en fait, les hommes n'ont pas le choix, ils doivent partir à l'assaut.
C'est d'une grande cruauté finalement, mais bon, comme sans doute tous les affrontements dans les différentes guerres, quelles que soient les époques. D'ailleurs, j'aimerais lire, toujours pareil, tiré de l'ouvrage que je citais tout à l'heure, une lettre d'un soldat qui s'appelle Émile Sautour, qui a écrit le 1er juillet 1915 une courte lettre qui dit ceci. On est arrivé à se battre dans les tranchées, non avec le fusil et la baïonnette, mais avec les outils portatifs, la pelle et la pioche, jusqu'au couteau. Je vous prie donc de m'adresser, dit-il à son interlocuteur, dans les plus courts délais, un couteau solide, puissant, avec un cran d'arrêt, ainsi qu'une chaîne pour l'attacher. Émile Sautoir écrit ça à ses parents ou à ses amis.
Oui, c'est un témoignage qui est sincère et qui est absolument réel, puisque quand on lit les journaux de marche des différentes unités, on se rend compte que souvent, au cours d'une offensive ou d'un coup de main, c'est-à-dire une toute petite offensive, l'affaire se termine au corps à corps. Donc fatalement, parfois à l'arme blanche. Il y a même des unités qui sont spécialisées pour nettoyer les tranchées. Lorsqu'une tranchée est prise, que des malheureux sont encore vivants, le but des nettoyeurs, c'est d'éliminer tous ces gens qui vont devenir des poids morts sinon.
Voilà, donc le patrimoine mémoriel est important. Vous l'avez beaucoup parcouru, vous y avez amené vos élèves. Et il est encore suffisamment visible et présent sur les champs de ce qui était le champ de bataille, même si beaucoup de choses ont disparu, bien entendu. Mais est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui attire encore des gens? Est-ce que ça intéresse encore les jeunes, par exemple, les familles? Est-ce que les familles qui ont connu des soldats morts pour la France, est-ce qu'ils viennent sur les lieux? Qu'est-ce que vous avez rencontré finalement en visitant vous-même ces différents endroits?
Il y a toujours un intérêt pour la Grande Guerre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est une guerre victorieuse malgré tout. Du coup, elle est restée dans la mémoire collective probablement plus que les autres. Et c'est probablement le sujet qui a suscité le plus d'ouvrages de publication depuis qu'elle a eu lieu. Et au-delà donc du front, vous me demandiez si les jeunes aujourd'hui étaient intéressés par le sujet. Au-delà des jeunes, c'est toute la population qui reste intéressée, parce qu'il y a aussi un patrimoine à l'arrière. Ce patrimoine matériel, il n'est pas que sur le front, il est aussi chez nous. Alors bien sûr, sur toutes les places des villages, les monuments aux morts, mais aussi les stèles innombrables qui se trouvent dans nos églises. Donc il y a du patrimoine matériel dans les lieux publics à l'arrière, et aussi dans les familles. Quand vous rentrez dans une famille, dans des familles, on va dire anciennes, vous êtes étonné de voir que dans la cuisine trônent encore des obus ouvragés, oui. Ou bien le portrait du grand-père qui a fait Verdun.
Oui, ou ses médailles.
Tout simplement ses médailles.
Oui.
Du coup, cette mémoire collective, elle existe toujours. Et aujourd'hui, du coup, l'intérêt pour la Première Guerre mondiale, il est réel, il existe toujours.
Quelle comparaison feriez-vous entre la Première Guerre mondiale et puis les guerres actuelles? Et je pense notamment à celle qui se déroule actuellement en Ukraine.
Alors moi, je suis un modeste prof d'histoire géo, et pas un géopoliticien, mais la Grande Guerre reste à part. Pourtant, aujourd'hui, il y a des guerres qui ressemblent de plus en plus. Par exemple, le conflit en Ukraine entre le gouvernement ukrainien et la Russie ressemble sur beaucoup de points joint à ce qu'a été la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un front qui s'est figé et un duel qui se cantonne à quelques offensives à certains moments de l'année et qui, pour le reste du temps, correspond à des tirs d'artillerie qui tuent tous les jours, mais aujourd'hui en Ukraine sous la forme de drones. Les drones ont remplacé les obus de 75, mais finalement, d'un point de vue technique, c'est des conflits qui se ressemblent beaucoup, de ce point de vue-là en tout cas.
Voilà, merci Gilles Vidal. Nous allons arrêter cette deuxième partie de notre émission et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder un autre thème qui sera, lui, cette fois, sur le livre que vous venez de publier, que vous avez présenté à Mauriac, qui s'appelle « Destin de poilu ». Merci Gilles Vidal.
Merci à vous.
RBA FM, Auvergne, Limousin.